Et salut à toi, bonjour à toutes et à tous, curieuses et curieux, fâchés mais pas fachos, salut Sophie à ma droite mais bien à gauche.
Salut Quentin, bonjour Sylvain.
Salut à vous.
Bienvenue sur l'onde curieuse de ce mardi 23 mai. Il est midi pile ou 17h si vous écoutez la rediffusion.
Aujourd'hui, on continue de vous faire entendre des morceaux choisis du festival Joyeuse Escale qui a eu lieu ce week-end. Et on part en voyage avec ou pour Rencontrer l'animal. Interview à deux voix réalisée par Bruno Auboiron avec Stéphane Blaise qui a sillonné la France pendant 3 ans avec Marius, son âne, et Nicolas Dumoulin, entomologiste, poussé sur les routes par sa passion pour les papillons.
Et oui, on garde encore aujourd'hui à l'esprit ce principe du voyage, de l'ouverture à l'altérité totale, de respect pour l'autre en écoutant le petit bulletin d'information du jour.
Une première info, c'est la nouvelle PAC qui entre en vigueur en 2023. La politique agricole commune, hein, sont les grandes orientations de l'agriculture européenne pour les années à venir et les subventions qui y sont rattachées.
Et oui, et tandis qu'au niveau local, on réfléchit ardemment à la relocalisation de nos agricultures et de notre alimentation, on se retrouve avec ces textes cadres pondus un peu par la technocratie européenne appuyée par les gros producteurs agricoles qui privilégient toujours davantage l'agriculture de masse, les parcelles gigantesques, l'agriculture technologisée et financiarisée qui freinent violemment notre agriculture paysanne, surtout en Ardèche, où la taille des installations agricoles est très réduite.
Un exemple, parmi d'autres, donné par le Dauphiné Libéré, qui souligne que les éleveurs et les éleveuses d'Ardèche s'inquiètent pour leur avenir, alors que la nouvelle PAC impose d'augmenter la taille des troupeaux pour toucher la subvention dite ICHN, c'est indemnité compensatoire des handicaps naturels. Et pour les cheptels de moins de 33 têtes, exit ces quelques milliers d'euros qui permettent à la fois la subsistance des paysannes et des paysans et le maintien des prix du fromage dans des limites raisonnables.
Et oui, c'est un peu ennuyeux parce que du coup, c'est ces lois cadres fixées au niveau européen et ces subventions-là qui nous obligent à réfléchir à la relocalisation de l'agriculture et de l'alimentation en fonction de ça, avec des fils à la patte de ce genre-là. Et hier, je mentionnais le nouveau partenariat entre la Comcom d'Aubenas et la Chambre d'agriculture. Je suis curieux de voir ce qui va en sortir, sachant qu'on est limité par les textes européens. Dans un autre registre, c'est le projet de loi d'orientation de la justice porté par notre génial ministre Dupond-Moretti, l'homme qui fait des bras d'honneur à l'Assemblée nationale. Il contient donc ce projet de loi une disposition qui vise à légaliser une pratique qui était existante mais marginale, c'est l'utilisation à distance des smartphones et des autres appareils électroniques à des fins d'espionnage.
Mais BFM TV nous rassure.
Oui, BFM TV essaie de nous rassurer sur la teneur de cette mesure. Ils disent que, comme pour les caméras de vidéosurveillance, que d'ailleurs on commence à appeler de vidéoprotection, les seuls qui ont quelque chose à craindre, ce sont les criminels.
Les méchants, ouais, c'est ça. C'est les méchants ont peur, les gentils n'ont pas à avoir peur.
Bah oui, vous n'avez pas à avoir peur. De toute façon, c'est encadré judiciairement. L'idée, c'est que ça ne s'appliquera pas à tout le monde. On ne va pas espionner vos conversations sur les adultères, etc. L'idée, c'est vraiment de protéger les Français. Et donc, le commun des Français n'a pas à s'inquiéter. Cependant, on peut quand même s'inquiéter de l'évolution prévisible de cette législation, de cette légalisation, pardon. Pour le moment, la tendance est à faciliter et à accélérer tout ce qui relève du contrôle et de la surveillance. Hein, on le note dans l'onde curieuse régulièrement. Même si l'idée de la loi est d'encadrer juridiquement les espionnages, on sait bien que rien n'est plus fluctuant que les cadres juridiques de la Macronie. Et d'ailleurs, le Conseil de l'Ordre, c'est-à-dire les maîtres du barreau, les avocats de Paris, ont publié le résultat de leur étude sur le sujet. Alors, on a lu ça. Tendez l'oreille, c'est assez fou, parce que donc ils étudient le texte, ils pondent quelques constats, et après, ils ont une conclusion.
Donc, le sixième constat, point 6. Cette possibilité nouvelle de l'activation à distance de tout appareil électronique, dont le téléphone portable de toute personne qui se trouve en tout lieu, constitue une atteinte particulièrement grave au respect de la vie privée qui ne saurait être justifiée par la protection de l'ordre public. En outre, le projet n'interdit pas, par leur collecte, l'écoute des conversations dans son cabinet entre l'avocat et son client, même si leur transcription est prohibée. Il s'agit là d'une atteinte inadmissible et contraire au secret professionnel et au droit de la défense. Ces dispositions apparaissent contraires à la Constitution, à la Convention européenne, donc ces dispositions, les 6 dispositions dont font état les maîtres du barreau. Donc ces dispositions apparaissent contraires à la Constitution, à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi qu'à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Et la conclusion ?
À l'unanimité des votants, le Conseil adopte le rapport.
C'était quand même assez fou à lire, quoi. Et là, t'as ces 5 points, le 6e qui dit que c'est une atteinte inadmissible. Finalement, ils l'ont beaucoup admis, donc c'est une grande tendance de ce mandat. Maintenant que le gouvernement a montré son approche de la concertation, où les partenaires sociaux, les syndicats, les citoyens, tout ça sont écoutés mais jamais entendus, les organismes apparemment commencent à s'auto-censurer. C'est pratique. Dans un sens, ça leur évite d'être désavoués par le gouvernement ensuite. Alors, sans vouloir rapprocher notre président autocrate et autoritaire des plus sombres heures de notre histoire...
Attention, point Goldwyn, ouais.
Ouais, je voulais revenir un peu sur cette série d'affiches qui avait envahi Avignon et qui représente Macron en Hitler avec une moustache en 49.3. L'image a été reprise de l'œuvre du graffeur Lecto. Ça s'était passé au printemps, on en avait déjà parlé. On reviendra pas sur le tollé indignation de la part de la préfète et d'autres observateurs qui trouvent que la liberté d'expression ne devrait pas s'appliquer à la satire de notre président.
Bah tiens donc. L'affiche placardée est accompagnée du hashtag « Agir ou subir » et de cette citation de Gandhi. La désobéissance civile devient un devoir sacré quand l'État devient hors-la-loi ou corrompu. Alors les affiches ont été retirées par la police en moins de 2 jours. Une enquête a été ouverte. Et l'affaire est à suivre parce que les mécanismes sont un peu les mêmes que pour Charlie Hebdo. Que l'on soit organisation religieuse ou politique, peut-on menacer la liberté de satire ?
Ouais, ça soulève un peu des questions parce que surtout ces affiches, il y avait une mention aussi, ces affiches sont satiriques, enfin voilà. C'était la même chose pour le graffiti, on se demande ce qu'on peut encore dire et de quoi peut-on rire. Une autre liberté qui voit rouge ces temps-ci, c'est la liberté syndicale et la menace fasciste qui pèse dessus. Dans ce cas précis, la menace vient des rôles ambigus des policiers. Je vous partage un communiqué qu'on a reçu en ce début de semaine de la part de la CGT de Tourcoing, qui était relayé par l'union locale d'Aubenas, ça date du 18 mai.
Ce soir, notre délégué Verbaudet a été embarqué devant chez lui par des policiers en civil, plaqué sur sa voiture devant son enfant. Il a été embarqué dans un véhicule banalisé. Des individus prétendument policiers, en l'interpellant au cri de
« Sale gréviste ! Toi, le délégué syndical !»
ont pénétré dans ce véhicule. Ils l'ont copieusement gazé, frappé et lui ont craché à la figure. Ils l'ont humilié, porté atteinte à sa dignité et l'ont finalement jeté de leur véhicule sur la commune de Ronchin après l'avoir délesté de son portefeuille. Cette expédition punitive de type fasciste, opérée par des miliciens qui n'ont a priori aucun rapport avec ce que devrait être la politique républicaine, n'est pas toute
la police républicaine.
Qu'est-ce que j'ai dit ? La politique ?
Ouais, ouais,
la police, mais la politique aussi. Mais la police républicaine n'est pas tout à fait une surprise. En effet, lors de l'arrestation abusive de nos deux camarades CGT avant-hier, les forces de police ont lancé aux délégués syndicaux CGT Verbaudet ceci.
Les prochains, c'est vous.
Face à ces méthodes, nous exhortons ce qu'il reste de république et d'état de droit dans ce pays à punir les coupables et faire cesser ces agissements insupportables.
Ah ouais, c'est un peu inquiétant cet amalgame entre les forces de police et une certaine extrême droite identitaire là. On en parlait à propos de la manifestation du 9 mai où les mecs défilaient avec aussi des brassards orange, donc ils étaient entièrement cagoulés. Bref.
Reprenons un petit cours d'histoire.
Ouais, c'est ça. Pour celles et ceux qui souhaiteraient reprendre les cours d'histoire nécessaires pour bien comprendre les tenants et les aboutissants du fascisme d'État, de la fascisation d'une société et de l'idée de résistance, notez que samedi, le 27 mai, à 16h, l'ANACRE, donc c'est l'Association Nationale des Anciens Combattants et Amis de la Résistance, présente un nouvel ouvrage qui s'appelle « Sur les traces de la Résistance en Ardèche ». C'est un livre qui répertorie les nombreuses traces des actions ou du sacrifice de celles et ceux qui se sont opposés à l'idéologie nazie et à sa barbarie. Donc il y a des plaques de rue un peu partout en Ardèche, des monuments, des stèles, des noms d'écoles.
Ouais, il a aussi pour ambition de montrer comment l'Ardèche a rendu hommage au cours du temps à celles et ceux qui ont contribué efficacement à la libération et comment ça s'inscrit dans l'espace départemental. Le jour choisi, on le note, est hautement symbolique parce qu'il commémore les 80 ans de la première réunion présidée par Jean Moulin du Conseil national de la Résistance. Rendez-vous donc au Musée de la Résistance en Ardèche et la Déportation, c'est Auteuil.
15 rue du Travail, 07 400. voilà, ça c'était mon petit cheminement, c'était un peu ce que j'avais commencé hier et pas tout à fait terminé. Pendant ce temps-là, les bibliothèques et les médiathèques du coin continuent de proposer des moments de rencontre pour découvrir des univers qui nous sont soit étrangers ou à tout le moins étranges, et pour continuer de nous interroger et d'apprendre. C'est le cas notamment ce soir, mardi 23 mai à 18h, à la médiathèque de Montpezat.
Oui, avec le lancement d'un projet artistique participatif, Saga E, le silence des sorcières, autour des sorcières du Vivarais, qui est porté par le collectif Basalt et qui durera jusqu'en septembre. Donc le premier moment, c'est toute cette semaine, jusqu'à vendredi, et ça commence ce soir avec une lecture partagée, donc à la médiathèque, autour des thématiques sorcellerie, rituel, pouvoir naturel ou surnaturel, avec un choix libre des textes. Un mot simplement sur ce projet qui convoque au départ Catherine Perton, qui est brûlée sur la place de Montpezat sous Boson au XVIe siècle, parce que sorcière. À l'époque, il fallait faire taire principalement les femmes, je note qu'il n'y a pas que des femmes, mais c'est principalement les femmes, et les savoirs considérés comme occultes, qui pouvaient être ce que l'on nomme aujourd'hui science. Toute la démarche artistique du collectif, c'est donc d'interroger collectivement les manières dont les croyances se façonnent. Le projet en lui-même est absolument fascinant, à voir comment ça va se mettre en place.
Et ouais, ça démarre bien, et je lisais un peu sur leur site internet l'histoire de Catherine Perton, et en fait c'était la pleine période de l'Inquisition, quoi. Donc il y avait un inquisiteur général qui était sur Aubenas, et en fait quand tu lis les chefs d'accusation et tout, c'est juste... On vivait une époque un peu merveilleuse où dès qu'elle, enfin, elle était accusée. Je pense qu'elle avait pas toute sa tête non plus. Catherine Perton, elle relève pas trop forcément des sorcières herboristes, mais comme elle avait des comportements un peu étranges et qui étaient considérés impies, genre on l'avait accusée d'avoir refusé de manger l'hostie à l'église, et donc du coup ça voulait dire qu'elle avait pactisé avec le diable, et que du coup quand elle touchait de la main gauche quelqu'un sur sa partie gauche, il était condamné à avoir mal. Puis il y a eu quelques témoignages. Un peu fallacieux de plein de gens qui l'accusaient de tous les maux du monde, du village, et voilà, il a fini le bûcher.
Et après, son propre, son propre témoignage, mais sa propre, comment on dit ?
Défense ?
Non, on s'accuse. Elle a avoué, voilà, son propre aveu.
Ah ouais, ouais, c'est ça. Être sous l'emprise du démon.
C'est ça.
Donc venez rencontrer le collectif Basalt, c'est ce soir à 18h à la médiathèque, ou prenez contact avec eux sur assobasalt, donc B-A-Z-A-L-T, @gmail.com. La semaine à Montpezat se clôturera vendredi à 18h avec la projection d'un documentaire multi-récompensé qui s'appelle « Dans les bois » de Mindaugas Survila. C'est une immersion au cœur de la vie sauvage avec une très belle bande-son.
Oui, uniquement des bandes-sons, on est vraiment plongé dans la nature, il n'y a pas de commentaires, on ne nous la fait pas, la Sylvain Tesson. Et tout ceci se passe dans le cadre de la fête nationale de la nature. Moi juste, je m'interrogeais sur la pertinence de dédier moins que 365 jours par an au monde vivant.
Ah oui, c'est comme pour toutes les fêtes nationales, internationales, c'est la journée du handicap, enfin voilà. Toute cette semaine, jusqu'à vendredi 26, il y a aussi une deuxième résidence, c'est l'atelier Bivouac, le collectif de paysagistes basé à Chirolles au Moulinage.
Et l'atelier Bivouac, oui, autour de l'étude de la place de la bibliothèque de Gravières, pour imaginer avec les habitants ce que cet espace public va devenir. Donc vous êtes invités à venir en parler lors des différents temps d'atelier, de permanence à la Serraquois, de moments conviviaux et de ciné-débat aussi. Donc c'est une semaine pendant laquelle voilà, on peut discuter, on peut reprendre un petit peu le pouvoir sur ce à quoi on a envie que ressemble notre espace public. Renseignements contact@atelierbivouac.com.
Sur juste un petit mot sur cette démarche de consultation citoyenne, j'ai l'impression que l'atelier Bivouac, comme paysagiste militant impliqué, etc., font des vraies consultations citoyennes. Il y en a une, cependant, qui est à court en ce moment et qui n'est pas forcément fofolle. Pouvez-vous renseigner, c'est pour l'installation d'une nouvelle antenne 4G en plein centre du village de Jaugeac. Il y a un gros collectif d'habitants qui a monté une pétition qui a jusque-là recueilli 670 votes, ce qui est pas mal dans un petit village comme Jaugeac. Il y a une réunion d'information le 25 à Jaugeac. Renseignez-vous sur Facebook, c'est Jaugeac non antenne. Et n'oubliez pas que la consultation publique en mairie se fait le dimanche 28 de 8h à midi. Donc si vous voulez aller donner votre opinion et critiquer peut-être une énième antenne dans votre paysage jaugeacien, n'hésitez pas. Voilà, c'est tout pour les infos d'aujourd'hui. Je vous propose de continuer en musique et on va continuer avec un morceau de Kerchanga. Et donc Kerchanga, c'est un des deux duos féeriques, oniriques, magiques et voyageurs qui se produiront dans le jardin de la radio ce jeudi. C'est la quatrième épisode des sessions musicales dans les jardins de la radio. La prochaine, c'est Revox, c'est le groupe de Sylvain, notre régisseur bien aimé. Et en attendant, voilà, jeudi, deux groupes, donc Tchadian, un duo qui met en musique des poèmes de Baudelaire et autres. C'est cool, il y a des percussions, flûte, guitare et une voix incroyable. Kerchanga, quant à eux, c'est un duo. Alors, elle est polonaise, lui, il est français et ils font de la musique africaine. Je vous propose de continuer tout de suite. Kerchanga, le duo Kerchanga sur Fréquence 7 avec le morceau qui s'appelle Seloma. Donc n'oubliez pas de venir nous rejoindre jeudi. On organise encore une fois un afterwork dans les jardins de la radio. Donc c'est en haut d'Aubenas, au bord du parking du Belvédère.
Dès 17h.
Ouais, dès 17h jusqu'à 21h et des poussières, jusqu'à la nuit tombante, voire tombée, si tout se déroule bien. Vous retrouverez du coup une buvette locale, la petite restauration de qualité, deux groupes de musique, donc Tchadian, Allez les trouver sur YouTube, vous pouvez trouver quelques extraits. Kerchanga, pareil. Deux concerts pour le prix d'un, et encore, c'est 5 € l'entrée avec une boisson ou un lancer de dés. Soyez là, soyez nombreux, soyez heureux, c'est pour financer votre radio libre préférée.
Et puis maintenant, on part en voyage avec Stéphane Blaise et Nicolas Dumoulin. Et on s'interroge avec eux sur ce que l'animal fait au voyage. C'est un morceau choisi, issu du festival Joyeuse Escale qui a eu lieu ce week-end. Interview réalisée par Bruno Auboiron.
Ce programme vous est présenté par Fréquence 7, en partenariat avec Allô la Planète.
Timonier, vous resterez à l'auberge et recueillerez les expériences des autres voyageurs de l'escale. Cela nous sera fort utile pour la suite de notre voyage.
La Blabla Halte de la Joyeuse Escale. Une émission présentée par Bruno Auboiron. Enregistrée au Colibri par Allô la Planète.
Bonjour à tous. Bienvenue à cette nouvelle table ronde de la Joyeuse Escale organisée par la radio Allô la Planète, dont le thème est « Les enseignements du voyage aux côtés de l'animal ». Nous accueillons pour ce faire Nicolas Moulin, bonjour.
Bonjour.
Et Stéphane Blaise.
Bonjour.
On va discuter ensemble une vingtaine de minutes ou moins ou plus, ça dépend. Et puis après, la parole circulera dans l'Assemblée. De l'étude des insectes, ici ou ailleurs, au cheminement tranquille au rythme de l'âne, porteur et compagnon, la relation de l'homme à l'animal prend diverses formes. Curiosité scientifique et intellectuelle, besoin de ressourcement et d'un partage silencieux, l'animal est irremplaçable et source d'enseignement. C'est sa passion pour les insectes qui poussa Nicolas à l'aventure de la Guyane à Madagascar, en passant par l'Afrique centrale. Et quand il n'est pas à l'autre bout du monde, il occupe sa sédentarisation provisoire en devenant expert en entomologie. Mais quel que soit le lieu où il est, sa seule préoccupation est de ne faire qu'un avec la nature. Quant à notre boss, 3 ans sur les chemins en compagnie de son âne, Stéphane vit et rêve le voyage. Reprenant les rênes de la web radio Allô la Planète, il tend son micro désormais à tous ceux qui partent, sont ou reviennent de voyage, en attendant sans doute de repartir avec son âne. Et ben voilà, petite présentation.
Merci.
Pourquoi c'est indispensable l'animal pour toi, Stéphane, dans un premier temps ?
Alors, moi, ça l'est devenu. Ça l'était pas au début. Je suis parti avec un âne parce qu'il était chez moi et que non, mais c'est ça. Quand je suis parti avec lui, je ne savais pas marcher. Enfin, quand je dis je ne savais pas marcher, je ne savais pas randonner, je ne randonnais pas. Lui ne savait pas non plus marcher. Il était quasiment jamais sorti de son parc. Il avait 5 ans et quand on a pris la route pour 3 semaines la première fois, on a appris ensemble à bivouaquer, à chercher nos chemins, à rencontrer les gens et se laisser accueillir par nos rencontres. Voilà, je voyage avec un âne parce que un jour un ami m'a offert un âne et voilà, enfin, il y aurait probablement pas tout ça aujourd'hui, on serait voilà, sans lui,
ouais. Sans Marius. Voilà. Et toi, Nicolas, l'animal, c'est pas un compagnon de voyage, c'est plutôt un but de voyage.
Oui, c'est pas un compagnon parce que sinon je serais arrêté à tous les aérogares, donc j'aurais des gros problèmes. Non, oui, voilà, moi c'est sur mon stand, j'utilise un peu le mot prétexte, mais voilà, en fait, je suis passionné d'insectes depuis tout petit. Et donc les insectes, bah, au début, je les ai amenés dans ma chambre pour les observer. Et en fait, à un moment donné, il faut sortir de là. Et c'est eux qui m'appellent à voyager, en fait, pour les comprendre, pour les connaître, pour les découvrir. Et donc, c'est vrai que l'animal, l'insecte, je le côtoie quand je suis en mission et même quand je suis en métropole. Alors là, j'aurais dû à l'insecte, mais en fait, c'est aussi les oiseaux, même les plantes, tout mon environnement, en fait. Je me sens beaucoup mieux dans la nature que, par exemple, dans une salle fermée avec une trentaine de personnes.
Toi aussi ?
C'est pas bien ici.
Comment on se comprend ?
Bon, mais ça va pas durer très très longtemps, vous inquiétez pas.
La piqûre ne fait pas mal, il paraît.
Et du coup, alors un prétexte, d'accord, mais un prétexte indispensable ou tu pourrais voyager sans avoir cette quête de la connaissance de l'insecte ou de la nature ?
Non, c'est maladif. Hein. C'est-à-dire que je pars pas. Déjà, je ne pars plus pour du tourisme. Je pars pour aller étudier des insectes. Donc ça c'est un point parce que voilà, pour moi, si je dois prendre l'avion, si je dois avoir un impact carbone, il faut que ce soit justifié. Donc j'y vais pour étudier les insectes et si je pars, effectivement, je serai toujours en quête d'aller dans la nature, d'aller les observer. Si je pars marcher, je suis un peu chiant. Hein.
T'as le nez en randonnée. Bas. T'as les yeux en bas.
Ouais, parce que je vais m'arrêter à chaque bestiole qui passe. Donc, c'est...
Bon, c'est pas dit qu'on aille marcher ensemble.
Alors. Non, voilà.
et Stéphane, toi, qu'est-ce que ça t'a appris, la marche avec l'âne, un rythme d'avancée adapté à l'animal?
Oui, c'est ça. À marcher à 3 km/h. Et. Ami randonneur
avec vous.
Qui aime bien y aller, laissez tomber l'âne. 3 km/h en moyenne. Voilà, ça m'a appris à marcher doucement, à prendre le temps, à relativiser, à pas prendre de rendez-vous, à arrêter de dire je serai là dans 3 jours, parce que non, en vrai, j'y serai pas. De faire le voyage différemment. Voilà. Tour de France, j'imaginais aller jusqu'en Espagne, voire au Portugal. Je me suis arrêté en Charente.
En fait, c'est l'âne qui décide. Un petit
complètement.
Peu.
Ah, c'est ouais. L'âne qui décide le chemin, c'est l'âne qui décide là où vous allez dormir, c'est l'âne qui décide un peu tout. En fait, on vous invite à aller dormir chez quelqu'un. Alors vous avez quoi comme terrain? Ok. Il y a quoi comme plante? Alors non, ça c'est nocif, c'est un poison, on peut pas. Ou votre pelouse, ou vos rosiers, si vous voulez les garder, on va peut-être changer d'endroit. Voilà, c'est l'âne qui choisit. Et surtout, si le terrain ne me convient pas pour lui, si je considère qu'il n'y a pas assez d'herbe. Si, ça veut beaucoup de si, hein. Si le terrain n'est pas sécure, si je peux pas mettre de longues longes, je vais ailleurs. Ouais. Mm-hmm.
Toi aussi, c'est les insectes qui décident là où tu vas aller, là où tu.
Oui, alors, oui, c'est effectivement, parce qu'en fait, c'est ce que je disais, moi, c'est un prétexte, donc c'est effectivement les insectes qui m'envoient vers une destination. Après, c'est vrai que une fois sur place, l'insecte c'est quand même moins gros que l'âne. Donc on y va pour un objectif, on y va pour un insecte, mais on peut se retrouver un peu le bec dans l'eau à pas atteindre un objectif ou pas voir l'insecte ou les insectes qu'on est venu étudier. Voilà, donc on est effectivement limité par eux.
Parce qu'à la lecture de ton dernier livre, toi, c'est quand même les menthes religieuses au départ. Enfin, les menthes, pardon, pas religieuses.
Ouais, ouais,
les menthes au départ. Elles sont pas toutes religieuses.
Elles
ouais.
sont pas toutes okay. religieuses. Elles font des choses qui ne leur permettent pas d'être
toutes religieuses. Ouais. Donc les menthes.
Tu les reconnais à quoi
Ah.
Alors auréole.
Je regarde pas sous les jupes.
Et du coup, pourquoi partir alors en mission au milieu de l'Afrique noire à la recherche d'un papillon alors que tu es spécialiste des menthes?
Oui, alors effectivement, ce contexte-là, c'est une expédition effectivement qui a été montée pour aller étudier le plus grand papillon de jour d'Afrique qui est à l'effigie de plein de timbres, qui est braconné pour des collectionneurs, pour faire des cadres et aussi par culture en Afrique noire. De cadres, de montage, de dessins à l'aide de papillons, d'ailes de papillons. Donc, on ne peut protéger que ce qu'on connaît. Donc, effectivement, on est parti. Et en fait, le chef de mission est, lui, lépidoptériste. C'est le terme qu'on utilise.
Donc, celui qui est spécialiste des papillons.
Qui est spécialiste des papillons. Mais il est parti avec une maladie potentiellement très incurable. Dans l'expédition, il fallait grimper en canopée, marcher tous les jours à 40 degrés, peu manger, potentiellement mal dormir, et un risque de choper toutes les maladies du monde. Donc il a voulu venir, ça lui a été accordé, mais il fallait qu'il soit accompagné d'autres entomologistes. Et en fait, les trois quarts de l'équipe de cette mission, je les connaissais d'autres missions en République centrafricaine, en 2010, en 2012. Et donc, ils m'ont demandé de compléter l'équipe pour cette mission. Après, j'ai une culture générale sur les insectes en entomologie qui est assez large. Donc oui, j'ai une spécialité pour les mantes, mais je peux quand même travailler sur plein d'autres espèces d'insectes.
D'accord. Et du coup, on va pas dévoiler parce que c'est dans le livre, donc on va pas spoiler la fin pour savoir si vous l'avez trouvé ou pas. Vous le lirez.
Divulgaché.
Merci. Et du coup, le voyage en âne te permet des rencontres avec d'autres voyageurs accompagnés d'animaux ou...
Oui,
c'est une communauté ou non,
c'est pas. Alors, tant. C'est une communauté. Les voyageurs avec des équidés, c'est une communauté, une petite. Mais moi, quand j'étais en voyage, il y avait deux ou trois personnes qui voyageaient avec un âne. Comme quoi, on n'est pas tout seul. En tout cas, deux ou trois qui partageaient une page Facebook ou un blog et on pouvait connaître ou les suivre. Il y en a d'autres. On lit dans les journaux parfois un article de presse sur un monsieur ou une dame qui est en cours de route avec un équidé ou un âne. Oui. Et alors, je ne suis pas accueilli uniquement par des gens qui ont des ânes, mais les ânes sont de véritables passeports. Quand je parlais du jardin avec les rosiers, mais c'est souvent ça. C'est pas un chien, mais ouais, très très souvent, il y a des régions. Je pense à la Bretagne et la Normandie où je me cachais presque pour être tout seul le soir. Ouais. Est-ce que j'étais sans arrêt arrêté et je m'en plains pas, mais quand on a envie d'un peu de se poser, de d'écrire un peu et voilà, c'est. Mais pour ça que je me suis arrêté plusieurs fois, plusieurs semaines chez des gens qui avaient envie de continuer le partage de la rencontre, du voyage.
Oui, bah si tu pars seul, c'est pour une recherche de solitude quand même.
Alors moi, j'étais pas du tout parti pour, en tout cas sur le Tour de France, j'étais pas parti pour être tout seul. J'avais envie de rencontrer des gens. Et d'ailleurs, j'avais pris du matériel pour faire des interviews de gens, de rencontres. J'étais pas parti pour être tout seul. Non, c'est qu'à un moment donné, quand on a envie de se poser, être seul, profiter de la nature, écouter son âne qui mange près de la tente, entendre les oiseaux, voir les chouettes effraies qui chassent autour de la tente, ou voilà, c'est des moments magnifiques et il faut se retrouver un petit peu seul pour vivre ça. Alors c'est vrai que quand on est à côté de maison, c'est pas toujours facile, mais voilà, moi c'est ce qui me plaît, mais j'adore être chez les gens et partager et voilà.
Et quand on est au milieu de la forêt équatoriale à la recherche d'un papillon d'une espèce particulière, on arrive à appréhender la beauté du reste et être attentif et être ouvert à l'environnement que tu as, ou c'est vraiment
théoriquement j'aurais pas dû avoir le temps de profiter du paysage. Et non, en fait, théoriquement, si on part dans un contexte de mission scientifique, si c'est vraiment le but, c'est normalement on est accaparé et on n'a pas le temps forcément de profiter parce que c'est un objectif scientifique. Voilà. Après, c'est si on parle de ce contexte de cette mission, comme elle s'est pas passée exactement comme on voulait, au bout d'un moment, on profite d'où on est. On profite du temps, on profite du paysage parce que y a des choses qui nous tombent dessus, parce qu'on veut sortir du contexte. Mais si on était... Alors, j'essaie de ne pas divulgâcher, mais voilà.
C'est dur parce qu'on l'a lu et c'est compliqué.
Oui,
hein.
Moi, je l'ai même beaucoup lu. non, mais en fait, j'en parlais d'ailleurs ce matin à mon, sur mon stand, c'est... j'ai pas prémédité le récit et j'avais prémédité un article scientifique. Ça c'était sûr, c'est que je voulais rentrer avec des données pour pouvoir améliorer la connaissance sur ce papillon. Donc effectivement, je suis un peu obtus si j'y allais pour aider cette équipe et sachant que potentiellement il y a que moi qui avais les capacités physiques pour grimper, pour marcher aussi longtemps dans la journée. Et après on allait écrire. C'était un article scientifique et en fait, j'ai plus écrit mon carnet de voyage, j'ai plus profité des pygmées, et je me suis dit aussi que la vie était courte, parce qu'on était avec quelqu'un de malade, et en fait, j'ai profité aussi du moment.
Mais justement, enfin, sans parler que de celle-ci, mais des autres expéditions à Madagascar ou ailleurs, quand on est en expédition scientifique comme ça, c'est pas frustrant d'avoir un objectif scientifique fort et de ne pas pouvoir profiter de la nature autour. C'est pas source de frustration, ça?
Je me complais pas mal dans la rigueur, l'exigence, et donc si je pars pour un but, c'est un peu binaire, mais je vais profiter. J'ai forcément des moments vacants où je peux profiter d'un paysage. Mais ces missions sont d'ailleurs souvent sédentaires. Donc, par rapport à quelqu'un qui randonne, qui fait un voyage en vélo, qui se déplace par l'eau, par la terre, on est sédentaire. Donc, effectivement, notre environnement, au bout d'un moment, c'est notre fond de jardin. Alors, effectivement, on l'apprécie, on l'observe, mais cet arbre, ça fait, je le croise 3 fois par jour en allant à mon hamac.
Ça veut dire qu'il y a une sorte d'habitude qui s'installe.
Oui, après il faut avoir une routine hein, de toute façon. Il faut, il faut
une routine.
T'es dans ton labo, tu as un horaire de réveil. Tu à telle heure il faut se nourrir. Le soir, tu sais que t'es off pendant cette période-là. La nuit tombe, on peut plus faire d'entomologie, donc on peut profiter des chants d'insectes de la nuit, des bruits nocturnes.
D'accord.
C'est rythmé quand même.
Et dans le voyage avec l'âne, il y a une routine aussi qui s'installe?
Ah oui.
L'animal installe cette routine ou c'est toi qui
le voyage
à l'animal?
Alors l'animal et le voyage, tu te lèves le matin, tu vas brosser ton âne, tu lui mets le bas, tu as tout le rangement, tu pars, puis moi je faisais des pouces broutes toutes les 3 heures, donc je m'arrêtais. Un endroit idéal pour lui, j'enlève le bas, je laisse manger. Accessoirement, je fais une petite sieste pendant qu'il va qu'à ses occupations. Et puis ainsi de suite, voilà, toutes les 3 heures, pause broute.
Ensuite, reprenons un peu sérieux, s'il vous plaît.
Non, mais c'est comme ça.
Mais tout à fait.
Ensuite, le soir, on cherche un terrain. On plante la tente, on s'occupe de l'âne, c'est une priorité. C'est un peu comme un enfant. C'est comme un enfant de 6 ans, vraiment. On est sans arrêt en train de s'occuper de lui. On lui donne pas à manger, mais on s'occupe de lui. Donc voilà, on le brosse, on plante la tente, on se fait à manger, on le rattache. Ou si le terrain est clos, eh bien on le laisse libre. Puis le lendemain, on recommence, on se lève, on range, on brosse, on cure les pieds, et ainsi de suite.
Mais du coup, le fait d'avoir cette préoccupation constante du bien-être de l'animal et de son bien-être, ça te permet quand même de bénéficier des bienfaits du voyage par la traversée de l'environnement que tu...
C'est une contrainte. Quand tu pars avec quelqu'un d'autre que... Enfin, t'as déjà cette contrainte-là, de l'autre. Et puis, bah, quand c'est un animal, tu es obligé de t'en occuper. Moi, j'ai jamais voyagé autrement qu'avec mon âne. Enfin, en tout cas, j'ai jamais fait de randonnée. Même depuis que je suis rentré, je ne marche plus, je fais plus de rando parce qu'il n'est pas avec moi. Alors, je pourrais, hein, il est à Saint-Andéol-de-Vals. Il se trouve que j'enchaîne les choses pour m'occuper l'esprit et pour éviter de repartir. Mais voilà, en tout cas, je ne me vois pas aujourd'hui faire 3 semaines de rando sans lui. Je ne sais partir qu'avec lui.
Mmh. Toi, tu t'imagines pas partir sans aller voir les petites bêtes?
Ouais, non. Accompagné ou non?
D'accord. C'est la première question qui coûte le plus. Les autres, après, c'est trop facile. Alors d'habitude, on se sert d'Olivia pour la première question, mais... Ah, Olivia, t'es sauvée.
Moi, je me demande, par rapport à l'âne, pour la nourriture, il mange que... Enfin, ça dépend de la saison où on part, j'imagine. Mais sinon, il faut prévoir peut-être du foin, des compléments ou pas?
Non, c'est un animal rustique et il trouve toute la nourriture. Il est plus heureux sur les chemins que dans un terrain de 2000 mètres carrés à manger de la même herbe. Voilà, il trouve des branches, il trouve des plantes différentes tous les jours et ça lui convient très bien. Et il sait ce qu'il lui faut au moment où il lui faut pour se soigner, pour s'alimenter. Pour, le mien voyait un ostéo tous les 10 mois à peu près. Et je trouvais un ostéo sur mon voyage pour... j'allais jusque là, ouais. Pour voir s'il allait bien. Et il n'a jamais eu de problème.
Okay.
Un dentiste équin aussi. Il a une jeune femme qui est en Bretagne et qui voulait lui offrir un soin dentaire pour Noël. Ça ne s'invente
pas. C'était bien suivi, ouais.
Ouais, non, ouais. Et en fait, les dents poussent sans arrêt. Et un animal, un équidé qui vit dans un pré, manger de l'herbe ou même du foin, ça n'use pas les dents. Par contre, manger des branches, manger une nourriture un peu dure, lui permet de bien limer les dents. Et il n'avait quasiment aucun problème.
Et au niveau des sabots, est-ce qu'il s'est ferré un âne ou pas? Je me demande, c'est pas...
Alors,
comme
ça peut. Ça peut, mais en fait, il faut toujours trouver un équilibre. C'est comme les chevaux, en fait. Le fer à cheval a été inventé pour les militaires. Voilà, il fallait que le cheval aille le plus loin possible. Et jusqu'au bout, on l'usait. Donc, on lui mettait des fers pour éviter que la corne s'use. Moi, il fallait que je trouve un équilibre entre pas trop marcher... Et marcher suffisamment pour pas que le sabot suce trop. Alors, parfois, les terrains sont durs et usaient bien les sabots. Bah, je m'arrêtais. Et comme le sabot est sans arrêt stimulé, il pousse sans arrêt. Ce qui fait d'ailleurs que quand je me suis arrêté, les sabots ont poussé vraiment et j'ai dû trouver un maréchal. Cela dit, je trouvais un maréchal ferrant assez souvent. J'avais moi-même une lime et une pince pour prendre soin de ses sabots. Mais en général, ça allait très bien. Enfin, j'ai eu un petit souci où à un moment donné, parce que je l'avais mal taillé, le sabot est parti un peu en biais. Mais la solidarité sur les chemins, quelqu'un est venu, a fait un grand détour en retour de vacances pour s'occuper de ses sabots. Voilà.
Merci.
À côté.
Bon, moi, ce qui m'interroge, c'est que donc il y a eu une proximité physique et même au-delà, j'imagine, quand on est H24 avec un être humain, enfin vivant. Et donc, je voulais savoir si, il y avait des manifestations affectives entre tous les deux et comment ça se matérialisait, quoi. Est-ce que c'est câlin, un âne, est-ce que voilà.
C'est très câlin. C'est très câlin et ça montre quand il a besoin d'un câlin, ça montre aussi quand il est pas content, quand il fait la gueule parce que je le laisse dans un terrain et moi j'étais dormir chez l'habitant, c'est câlin. Alors moi j'ai une relation particulière, je l'ai eu à l'âge de 10 mois, il a 20 ans et on a partagé. Alors voilà, les gens qui nous rencontrent parlent de relations fusionnelles. Alors, je sais pas si c'est le bon mot, mais effectivement, on se regarde, on se comprend. On a, enfin moi, quand on me dit Anan s'est têtu ou Nanan ça n'avance pas, enfin moi ça me parle pas en fait. C'est, on se comprend et on avance. C'est parfois très pénible, mais c'est comme un enfant, voilà. Non, mais c'est vrai.
C'est pénible un enfant ?
Non, mais des fois, pardon, parfois, mon fils n'est pas là, ça va. Non, mais parfois, ça peut, voilà, c'est agaçant. Des fois, voilà, et ben voilà, il est agaçant et il avance pas. Il pense qu'à manger. Il y a de l'herbe fraîche. Ben effectivement, c'est énervant, mais voilà. Alors, je
voulais juste rajouter quelque chose par rapport à... Parce que où j'habitais, on avait deux ânes. Et ce qui est important, c'est que l'âne a toujours besoin de contact. Il n'aime pas être seul.
Oui.
Ça, c'est quelque chose qui est important pour l'âne. Et souvent, des fois, quand il s'arrête à des endroits, ce n'est pas forcément parce qu'on dit qu'il est têtu, mais il observe le terrain. Et il est très très observateur. Pour nous, il y a les chevaux qui vont plutôt, ou les mulets qui vont être un peu bourrins, on va dire. Et l'âne va plutôt étudier le terrain avant de s'engager.
Oui, et puis parfois il va s'arrêter.
Oui.
On va le voir dresser les oreilles vers une direction.
Mm.
Bon, il se passe rien. Et puis d'un coup, on voit un randonneur. Ah, ou un sanglier.
Oui,
ou,
oui.
Voilà, lui, il entend. Et parfois, on bivouaque. Je le voyais regarder au loin, les oreilles dressées. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Un renard, un bruit ou... Et voilà, on sait qu'il se passe quelque chose là. Il faut être observateur. Et c'est vrai qu'on parle de l'âne têtu, mais il est observateur, il fait attention, il est prudent. Et c'est pour ça qu'on perd aussi beaucoup de temps.
Un petit mot pour finir ou... Mot.
Merci de nous avoir écoutés, ouais, d'être aussi nombreux. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci Stéphane, merci Nicolas.
C'était la blabla halte de la Joyeuse Escale. La Joyeuse Escale est le festival du film de voyage et d'aventure. Un événement Allô la planète.
Et voilà, un événement Allô la planète.
Avec la voix incroyable de Plex.
Bah oui, d'ailleurs, la mienne commence à ressembler, là, plus ça avance. Voilà, du coup, c'était la fin de ces séries dédiées au Festival de la Joyeuse Escale. Voilà, on y a passé 4 jours, on a fait 2 émissions dédiées, je crois qu'on va pouvoir... 3 mêmes émissions dédiées. Voilà. Donc, c'est l'heure de la fin de cette onde curieuse du mardi 23 mai avec la suite du programme, Sophie.
Bah, à 15h, c'est le Télex.
Ah oui, non, pardon, à 13h, on a d'abord Aura des Pâquerettes, excusez-moi, réalisé par Radio Ondaine, sujet de l'APIGE, c'est l'Association pour l'intercommunalité des jeunes, c'est les objectifs du développement durable. Avec le projet Open Tracks Mind. Je ne sais pas grand-chose de ce que ça veut dire, mais c'est dans 20 minutes, 10 minutes.
Et à 15h, donc c'est le Telex.
Donc c'est vos messages sur notre boîte vocale, diffusés librement, c'est 04 75 93 30 25.
À 17h, c'est la rediff de l'onde curieuse. À 18h, c'est Polémique, c'est la voix off, avec la deuxième partie de 1 1er mai révolutionnaire.
Et à 20h, salut à toi. Et à 21h, Metal Zone. Merci à toutes et à tous d'avoir tenu jusqu'au bout de cette émission. C'était un peu long, mais c'était instructif. Merci Sylvain.
Merci Sylvain. Et on se retrouve jeudi.
Voilà. Bel après-midi à toutes et à tous.
À jeudi.